Bienvenue sur Radio CAD, une radio par et pour les lycéens, produite par le lycée Charles et Adrien Dupuy.
À l'heure de l'ouverture de la 35e campagne des Restos du Cœur, l'équipe de journalistes de Radio CAD s'est penchée sur le thème de la pauvreté pour sa première émission. Naïs, Anna, Victoria, Benjamin, Lucas, Noah et Maxime ont, chacun à leur manière, abordé ce thème de pauvreté. Écoutons dès à présent leur chronique. Les femmes ont leur journée internationale le 8 mars. La pauvreté a aussi la sienne, le 17 octobre. Certes, cette journée n'a pas fait la une des grands médias, mais elle est un aiguillon pour nous rappeler que la pauvreté est à nos portes. Laissons la parole à Noah, qui présente l'association ATD Carmonde, initiatrice de cette journée du refus de la misère.
Le 17 octobre a eu lieu la journée mondiale du refus de la misère. Cette journée est née de l'initiative du père Joseph Wazinski. Elle sert à donner la parole aux plus démunis, à mobiliser les citoyens et les responsables politiques en France. Elle permet de construire un point d'appui pour la lutte de fond. Le thème en 2018 était « S'unir avec les exclus pour construire un monde où les droits de l'homme et la dignité seront universellement respectés ». Pour cette campagne, plusieurs outils sont utilisés, comme des kits pédagogiques ou des affiches, où il y est inscrit sous l'email d'un enfant « Engagez-vous pour mes droits ». Pour cette journée à Paris, a eu lieu une marche contre la misère. Mais cette journée n'a pas été assez médiatisée cette année, dans les journaux ou même dans la télé. Même si certains sites en parlent, comme ATD Carmonde, qui est un site international que je vous conseille de consulter sur www.atdcarmonde.fr.
La pauvreté touche en France près de 10 millions de personnes. Les enfants et les jeunes ne sont pas épargnés. Mais comment vit-ils cette pauvreté ? Pas toujours facile, comme le prouvent les deux jeunes qui se sont récemment immolés pour attirer l'attention sur la précarité de leur situation. Écoutons Maxime.
Si je te parle de pauvreté, tu vas sûrement penser aux sans-abri parisiens ou aux pays africains où le taux de pauvreté est important. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si des ados de ton âge pouvaient être victimes de ce fléau en France ? Pose-toi la question, je vais t'aider à y répondre. D'après des données de l'UNICEF publiées en 2015, les enfants et les adolescents sont les premières victimes de la pauvreté en France. Aujourd'hui, un enfant français sur cinq est pauvre. Ce sont donc 3 millions de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On considère qu'une personne est pauvre si elle perçoit moins de 1026 euros par mois en 2018, c'est-à-dire moins de 60% du revenu médian. Sophia, Benjamin, Jassim et Brocéliande en font partie. Ces quatre ados sont mis en lumière dans le remarquable documentaire d'Andrea Rollins-Gaston, intitulé « Gosses de France ». Juste une petite parenthèse, des programmes stupides sont diffusés à longueur de journée sur le petit écran, et je trouve terriblement dommage que ce documentaire ait été diffusé un mardi soir. Sur France 2, pourquoi pas, mais à 23h25, c'est nul. Comme si le problème de la pauvreté ne concernait et ne pouvait intéresser que les insomniaques. Gosses de France dresse donc le portrait de quatre jeunes, alors âgés de 13 à 21 ans pendant le tournage. Ils sont tellement sincères dans leurs témoignages et tellement à l'aise face caméra que le téléspectateur alterne facilement entre les larmes et les éclats de rire, dus aux réflexions et à la façon dont ces quatre ados s'expriment. Mais la réalisatrice n'oublie pas de nous rappeler que leur situation est alarmante en intégrant tout au long du film des données aberrantes comme celle-ci. 3 enfants défavorisés sur 5 n'accèdent pas à la seconde générale. Dans les hôtels sociaux, un bénéficiaire sur 5 est un enfant. Ou encore, en zone urbaine sensible, les jeunes souffrent 2 fois plus d'illettrisme. Elle ajoute, dans une interview publiée sur le site du Secours Populaire Français, que ces enfants sont confrontés à la pauvreté et ses conséquences qui s'immiscent dans tous les recoins de leur vie. Il faut bien avoir en tête que la précarité ne se résume pas à un manque d'argent, de biens ou de confort. Elle engendre d'autres facteurs qui, petit à petit, peuvent participer à la désocialisation de l'enfant. Le documentaire met en évidence de nombreux exemples. Sophia ne comprend pas pourquoi elle a été orientée en classe adaptée SECPA, alors qu'elle dit avoir l'impression d'être comme les autres. Pour Jassim et Benjamin, le manque d'argent ne les aide pas à se faire des amis ou à avoir une petite amie. Benjamin ne mange pas au self pour faire des économies et n'est plus invité aux anniversaires car il n'y allait jamais, faute de pouvoir offrir un cadeau. Quant à Jassim, il aimerait bien être en couple, mais serait gêné de ne même pas pouvoir offrir un kebab à sa petite amie. Brocéliande, la plus âgée des quatre, Passer pour une fille sale à l'école, n'ayant pas les moyens pour s'acheter du dentifrice et du savon. La précarité a donc des répercussions à ne pas négliger sur l'éducation des enfants, les liens d'amitié qu'ils peuvent tisser, leur santé et aussi leur estime de soi. Et en 1h25, on a l'impression d'écouter parler des ados attachants qu'on connaît depuis longtemps mais qu'on va devoir quitter. On se dit aussi que leur quotidien est quasi inhumain et que la prise de conscience de ce fléau de la part de la population française devrait être plus importante. Et puis, on va suivre de près l'actualité d'Andrea Rollins-Gaston, journaliste et réalisatrice de talent, à qui l'on doit plusieurs documentaires sur des sujets sensibles comme la clandestinité, l'avortement, le viol ou encore le harcèlement sexuel lié au travail. En écrivant cette chronique, j'ai appris qu'une Française et deux Américains avaient été récompensés cette année du prix Nobel d'économie pour leurs études sur l'allègement de la pauvreté globale. Sur Twitter, l'Académie royale des sciences suédoises, qui décerne les prix Nobel d'économie chaque année, a indiqué que les recherches conduites par les trois lauréats du prix avaient considérablement amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté globale. En deux décennies, leur approche basée sur les expérimentations a transformé l'économie du développement, qui est maintenant un champ de recherche florissant. C'est quand même une bonne nouvelle.
Mais que fait l'État ? Certains vous diront qu'il en fait trop, d'autres pas assez. Anna s'est demandé ce qu'une mairie pouvait faire pour aider les familles en difficulté. Elle est partie interroger Madame Bénat, adjointe à la mairie du Puy-en-Velay, pour parler des actions du CCAS.
Dans le cadre de la journée contre la misère, nous avons travaillé sur la pauvreté. Je me suis donc interrogée sur la façon dont les villes s'en occupaient et j'ai pu interroger Brigitte Bénat, élue au Puy-en-Velay et vice-présidente de l'agglomération, anciennement professeure de maths au lycée Charles et Adrien Dupuy. En premier lieu, dans toutes les mairies des villes se trouve un CCAS. Mais alors, qu'est-ce qu'un CCAS ?
Dans toutes les mairies des villes, il y a un service qui s'occupe des personnes les plus pauvres, c'est le CCAS, le Comité Communal d'Action Sociale. C'est un service obligatoire, il y en a un au Puy bien sûr, qui est géré par plusieurs personnes, donc il y a une directrice et un sous-directeur. Et ce service gère les maisons de retraite, et puis aussi les aides directes aux personnes qui sont en difficulté. Alors, les personnes qui sont en difficulté, dans le département, il y en a beaucoup, et elles sont aidées, suivant le cas, soit par la mairie, soit par le conseil départemental.
La ville prend plus en charge les personnes seules et le département prend en charge les familles. Au CCAS, des assistants sociaux et des éducateurs sont à la disposition des personnes en précarité, pour les écouter, pour les aider financièrement ou pour les orienter vers une voie qui leur conviendra mieux. La politique de la ville par rapport à la pauvreté est qu'elle peut s'adapter aux différents critères de pauvreté. Il y a des personnes qui sont pauvres car elles n'ont pas d'argent, d'autres parce qu'elles n'ont pas de relations, d'autres qui sont pauvres en études ou d'autres qui ont des difficultés de logement ou des difficultés de santé. Mais alors, quelle est la politique de la ville et plus particulièrement pour les quartiers classés prioritaires de la ville ?
La ville a des politiques adaptées un petit peu à tous ces critères. Donc premièrement, par exemple, il y a deux quartiers qui sont classés quartiers prioritaires de la ville, le Val-Vert et Guittard. Ça, c'est un classement qui est un classement national. Les villes choisissent pas les quartiers et ces deux quartiers sont reconnus prioritaires pour la politique de la ville. Donc dans ces quartiers-là, on a des aides tout à fait spécifiques. Une maison de quartier qui accueille les personnes en difficulté, qui leur propose par exemple des aides pour les vacances, des aides pour se servir d'un ordinateur, des points de rencontre. Il a été monté un conseil citoyen qui est formé de gens du quartier. Donc le conseil citoyen du Val-Vert est composé de gens qui habitent dans les immeubles et aussi de personnes qui sont dans les maisons pour qu'ils soient le plus représentatifs possible. Ce conseil citoyen est mené par un animateur qui est rémunéré par l'agglomération. Il travaille avec ces personnes-là, qui sont bénévoles bien sûr, pour travailler à mieux écouter les gens du quartier, à mieux comprendre quelles sont leurs difficultés et quelles sont celles qu'on peut résoudre rapidement. Dans les maisons de quartier, il y a aussi une travailleuse familiale qui organise des rencontres avec, par exemple au Val-Vert, avec le quartier qui a le plus de difficultés, Prosper Mérimée. elle les rencontre, elle organise des temps de parole pour que ces personnes expliquent, fassent connaissance, apprennent à mieux parler français et essayent de s'intégrer dans la société. À l'école du Val-Vert, il y a quelque chose qui est fait dans le sens de la pauvreté. La directrice s'est rendue compte qu'un grand nombre des parents d'élèves ne savent pas lire. Donc elle a organisé des ateliers de lecture et des ateliers de partage de pratiques avec les parents. Elle les réunit et elle leur propose de l'alphabétisation dans l'école. Il y a aussi, pareil, dans ces deux quartiers-là, des relais ados, où les jeunes sont accueillis pour faire leur travail. Donc ça, c'est une façon d'aider directement, sur place, les gens qui sont là.
La ville a aussi mis en place un comité local de santé mentale depuis un an. Ils réfléchissent à comment intégrer les personnes aux différents problèmes de santé dans la société. Pour les nombreux mineurs isolés du Puy, qui arrivent en particulier du Gabon, ils sont pris en charge par le dispositif du DAMI, dispositif d'accompagnement des mineurs isolés. Une grande partie est scolarisée et est logée au Gouspin ou dans des familles d'accueil par deux, aidées par des bénévoles qui les nourrissent, les logent, leur apprennent à lire, à écrire et à parler la langue. Ils leur offrent une famille. En France, il était prévu d'accueillir 24 000 étrangers, mais on n'en accueille malheureusement que 4 000. Il y a des services pour accueillir les migrants, avec plus de facilité pour les mineurs que pour les majeurs, car l'accès aux papiers français leur est plus facile. Dans leur pays, des villages entiers se cotisent pour envoyer en France celui qui aura les plus grandes chances de réussir. Les majeurs sont obligés de se nourrir au Resto du Cœur, aux Secours catholiques, à la Croix-Rouge et au Secours populaire. Tant qu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas travailler et donc pas vivre. C'est une situation intolérable, pire si elle se prolonge. Les citoyens lambda bénéficient aussi des services du CCAS. Le département dispose de deux services d'aide, un sur la voirie et un pour le social, donc il aide énormément de personnes.
On les voit assis le long des rues à faire la manche. Mais qui sont-ils réellement? Nos jurys du prix Totem ont lu pour nous « Belleville au cœur ». L'auteur, lui-même SDF, nous raconte sans concession et avec beaucoup d'humour sa vie de SDF à Paris, dans le quartier haut en couleur de Belleville.
Chaque jour, en France, un SDF meurt dans la rue. Belleville au cœur est dédié à ces milliers d'anonymes. Ces femmes, ces hommes qu'on a croisés sans doute, mais sans jamais les voir. Voilà comment se présente le récit « Belleville au cœur » écrit par Christian Page, un ancien sans domicile fixe qui a vécu dans la rue pendant 3 ans.
Ce roman fait partie de la sélection du prix Totem des lycéens, un prix littéraire organisé cette année par Totem, le journal du lycée.
Christian Page raconte le quotidien qu'il a eu pendant 3 années, dans les rues de Belleville, un quartier du 20e arrondissement de Paris. Tu t'imagines pendant 3 hivers, en dehors de chez toi, à dormir où tu peux, dans la rue, chez les gens qui veulent bien t'accueillir ou dans des organismes, sans jamais savoir ce que tu feras le lendemain ou si tu pourras te nourrir. D'après les chiffres de l'INSEE de l'année 2017, 143 000 personnes étaient dans cette situation en France. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter, tout comme le nombre de sans-abri qui décèdent chaque année en France. En 2018, ils étaient 566.
Ce livre nous ouvre vraiment les yeux quant à la situation inhumaine des sans-domicile fixe. Quand vous l'aurez lu, vous regarderez un sans-abri différemment. Et justement, parfois on accélère la marche quand on passe à proximité d'un sans-domicile fixe. Le regard fixé au loin, mais un petit bonjour, ce n'est pas trop demandé et ça fait toujours plaisir. D'autant plus qu'ils ne sont pas toujours en sécurité, puisque la violence fait aussi partie de leur quotidien. En voici un extrait.
Une femme SDF ne vit jamais seule. Elle ne peut pas dormir la nuit dans la rue, alors elle marche. Elle traverse Paris, en long, en large, sous les trottoirs, comme les putes algériennes de Barbès, les congolaises de Château-Rouge et les chinoises de Belleville. L'alternative est de se trouver un protecteur. Le couple se forme souvent en fonction de la dot du mari. Une tente, un chien, un RSA, un gabarit, tout est bon à prendre quand il s'agit de survie. La solution idéale, c'est d'être sous la protection d'un flic du quartier. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Le flic se prend de pitié, puis d'affection, et le protège.
Le témoignage de Christian Page est ponctué de notes d'humour. Mais il exprime parfois sa colère, contre l'État par exemple, qu'il trouve impassible face à la situation des sans-domicile fixe. Il s'énerve aussi contre la société, qui met en place certains dispositifs pour empêcher les SDF de dormir dans la rue.
Pour terminer cette chronique, sache que n'importe qui peut se retrouver à la rue, du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que toutes les femmes et tous les hommes qui passent leur journée au ras des trottoirs ont choisi cette vie. Pour Christian, ça s'est passé très rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il raconte au début de son livre. Il était maître d'hôtel dans un restaurant chic du quartier de la Madeleine à Paris. En 2012, il divorce, puis il fait une dépression. 3 ans plus tard, il se fait expulser de son foyer. Il s'est fait connaître grâce à Twitter et a aujourd'hui plus de 30 000 abonnés sur le réseau social. Rassure-toi, aujourd'hui Christian Page ne vit plus dans la rue. Il habite sous un vrai toit depuis le 6 août 2018 et expliquait au Huffington Post en septembre 2018 qu'il devait se réhabituer à vivre normalement, faire des courses, se doucher.
Je me lève le matin. J'ai 3 mètres à faire. Je prends ma douche, je mets des fringues propres et en un quart d'heure c'est réglé. Dans la rue, tu te réveilles, tu dois ranger tout ton sac avant d'aller dans une association. T'es souvent pas le seul, donc faut attendre pour prendre ta douche, puis te débrouiller. Un t-shirt propre, des chaussettes, etc. Ça te prend la matinée. Moi, maintenant, je le fais en un quart d'heure.
La rue est un lieu très hostile. L'auteur de Belleville au cœur ne souhaite à personne de vivre dans la rue, même à son pire ennemi. Mais quand est-ce qu'on atteindra l'objectif zéro SDF qu'Emmanuel Macron s'est engagé à tenir ? Sûrement pas cette année.
Faisons connaissance de Corinne, une mère de famille de 3 enfants dont Naïs nous brosse un féroce portrait dans une chronique corrosive pour dénoncer le regard stéréotypé sur les pauvres.
Voici l'histoire un peu banale de Corinne. Corinne a 28 ans. Elle est maman de 3 enfants et enceinte de Allocation 4. Pardon ! Du quatrième. Corinne n'est pas son vrai nom. Nous l'avons modifié pour ne pas stigmatiser les populations immigrées plus susceptibles d'être touchées par la pauvreté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Tarki. Elle a eu son premier fils, Eddy, non modifié, à 16 ans. N'a pas eu le bac. Mes 2 autres moutards, à 18 et 22 ans, Mimi et Léo. 3 pères différents. Celui du quatrième ? Un pauvre type qu'elle a hébergé sur le canapé de son 10 mètres carrés. Un alcoolique notoire. Elle ne s'étonnait même plus qu'il la cogne. C'est Eddy qui l'a fait sortir en balançant ses affaires du 8e. Corinne ne travaille pas. C'est une paresseuse. Puis elle vit du RSA, car c'est vrai que c'est plus facile de faire vivre ses 3 enfants avec 1200 euros et quelques qu'en travaillant au SMIC. Ah oui, c'est vrai! Elle a refusé 2 offres d'emploi clairement sous-payées avec des horaires impossibles. Donc, plus de RSA. Donc c'est Eddy, 15 ans, qui ramène les sous à la maison. Il deal. Parce que c'est pas vraiment en étant honnête qu'on peut gagner sa vie, surtout quand on vient d'un milieu tel que le sien. Parce qu'il ne faut pas compter sur les 2 autres. Obèses depuis leur plus jeune âge à cause de la malbouffe. Comme 45% des jeunes issus de milieux défavorisés. Chez Corinne, on ne mange pas bio, ni sain, ni bien, parce que la vie est trop chère. Corinne est une fainéante qui, au lieu de traverser la route pour trouver un travail, gagne au noir 100 euros en faisant le ménage. De toute façon, elle est dans le rouge de la première semaine du mois. Corinne est une profiteuse qui vit sur les allocations qui lui restent. Enfin, si elle avait demandé les aides auxquelles elle a droit. Ce qu'elle n'a pas fait, autant parce qu'elle ne sait pas comment faire, que par conviction d'être refusée. Corinne, parfois, est vraiment dans la galère et n'arrive pas à remplir la marmite pour ses enfants. Dans ces moments-là, elle est tentée de demander à sa petite sœur, Fanny, étudiante, un peu d'aide. Mais elle ne le fait pas. Car sa sœur, qui a déjà peu d'argent malgré sa bourse et un job payé au lance-pierre, a du mal à payer son loyer, et encore plus depuis la baisse des APL. Mais Fanny ne se plaint pas, car, comme disait Madame au Petit en 2017, si à 18 ans vous commencez à pleurer pour 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Corinne a 28 ans. Elle n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Elle gère toute seule ses 3 enfants. Elle travaille un peu au noir, elle ne demande pas les aides. Bref, c'est une fainéante et une profiteuse. Autrement dit, une pauvre.
C'était La Pauvreté, le premier numéro de Radio CAD, la radio par et pour des lycéens. Avec comme rédacteur en chef et au montage, Martine. Journaliste, Maxime, Naïs, Noah, Anna, Victoria, Benjamin et Lucas. Voix off de Lulabi. sur une musique de Summerflip, Broke for Free. Au prochain épisode, et si on consommait autrement? À très bientôt pour une nouvelle émission de Radio Cadre.